Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Radio.
Salut à tous les amis du vin et de la modération. C'est parti pour 60 minutes de plaisir. Nous sommes chez Fauchon à Paris, place de la Madeleine, avec un menu passionnant. Guy Savoie, le célèbre chef 3 étoiles qui sera à nos côtés dans quelques minutes. L'appellation Sainte-Croix-du-Mont. Le Vino Quiz qui va permettre à l'un d'entre vous de gagner un exemplaire du Guide des grands amateurs de vin 2011, édité au Cherche Midi. César Giron, le président de Pernod, sera également notre invité. Nous aurons un grand débat consacré au critique américain Robert Parker. Est-il has-been? Son style est-il en train de disparaître? La réponse dans quelques instants en compagnie de nos invités et chroniqueurs chéris fétiches, Pierre Guigui, David Cobold et Philippe Forbach. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Plateau très féminin aujourd'hui. Alors Philippe Forbach, nous le savons, vous êtes notamment meilleur sommelier du monde. Un commentaire peut-être sur une année qui est quand même assez étonnante, 1959.
Oui, c'est une année étonnante et c'est même une année de référence parce qu'on y a produit quand même beaucoup de grands vins. Et la nature est ainsi faite que malgré tout, derrière le gel exceptionnel de l'année 1956, finalement la vigne a réussi à revenir au premier plan. Les rendements étaient certes un peu plus limités, donc le gel a eu des conséquences pendant quelques années, notamment en 59, mais qui dit rendement maîtrisé avec une bonne année dit quand même résultat assez exceptionnel, le millésime 59, tant en rouge qu'en blanc, toutes les régions, dans la Loire, dans le Bordelais bien sûr, et notamment dans la rive gauche, du côté du Médoc et des Graves, c'est exceptionnel. Dans Bourgogne, dans la Côte de Nuit, c'est superbe pour les blancs, et c'était très intéressant pour les rouges en Côte de Beaune. Vallée du Rhône, finalement j'ai rarement goûté, et je pense que vous, mes amis autour de la table, et vous qui nous écoutez aussi, un mauvais 59.
Il faut nous appeler, David Cobold.
Champagne aussi, exactement.
Exceptionnel. Quelques people qui sont nés en 1959.
Oui, John McEnroe, Vincent Lindon, Pascal Légitimus, Luc Besson ou encore mon ami Patrick Bruel. Et puis Victoria Abril, parce que vous allez me dire c'est très masculin, c'est vrai, mais Victoria Abril est là.
Alors, on arrive en Espagne. Est-ce que vous avez Louise et Pierre Guigui.
Voilà.
Bravo, en tout cas. Hein, vous avez également Louise Bertrand dans vos listes de people et VIP.
Oui, exactement. Il y en a beaucoup de chance.
C'est notre premier invité, le directeur général de Gaz Natural Europe. Bonjour Louis.
Bonjour.
Alors, vous êtes à 100% catalan, né à côté de Barcelone. Bravo, ne change rien. Des études d'ingénieur en chimie, une école de commerce et puis votre carrière 100% chez Gaz Natural justement. Un souvenir de votre tout premier job à la production?
Écoutez, tout d'abord, je confirme que 1959, ça a été une très bonne année, un très bon coupage, une très bonne réussite. Moi, je suis un exemple qui est sorti après le gelé de 1956, arrivé 1959, je confirme. Bien, tout d'abord, merci beaucoup. Et pour la question, mon premier job, ça a été étonnant de produire des choses qui n'existaient pas. Pour moi, c'était presque la création, ça remonte un peu à arrière, mais vraiment, c'était génial de produire des trucs nouveaux qui n'existaient pas. C'était mon première sensation quand j'étais...
Quels étaient ces trucs qui n'existaient pas?
Oh, c'était des gaz qui n'existaient pas. On sort des solides et on fait des gaz.
Ah oui. Mais ça vous échappe, ça, David Cobold.
C'était un truc bizarre pour un ingénieur, mais créer des choses qui n'existaient pas.
1998-2003, 5 années, Louise Bertrand passé au Mexique. C'était une belle expérience, le Mexique.
Oui, vraiment, c'est l'Amérique, c'est le nouveau continent. Il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses encore à créer. Et on l'a fait et on continue à pousser encore pour accroître les activités là-bas.
Est-ce que vous avez goûté quelques vins mexicains? Parce qu'ils font d'excellents vin. J'ai bu il y a quelques jours une petite Syrah de Basse Californie qui était d'excellente facture. Vous avez goûté les vins mexicains?
Oui, bien sûr, j'en ai goûté. Et plus sur le côté où il y a les vignobles un peu plus sèches, c'est-à-dire qu'ils sont très forts en goût et qui n'ont pas trop d'eau, mais qui vraiment sont très forts en arôme et en goût.
David Cobold, vous connaissez tous les vins du monde, y compris les vins anglais. Le vin mexicain, vous l'appréciez?
Si, moi je suis d'accord. J'ai goûté effectivement des petites Syrah. Il y a un producteur qui, qu'on peut trouver les vins en France qui s'appelle Ella Cheto, producteurs mexicains de belle qualité. Il y a d'autres choses.
Pierre Guégui, vous connaissez les vins mexicains parce que...
Surtout d'autres alcools qui sont un peu plus des alcools de distillation qui sont assez puissants. Je crois que la première personne qui avait importé le mezcal, c'est ça qui...
Mezcal, oui.
Ouais, ouais. Et je me rappelle, j'étais à cette époque très sportif et il a fallu que je fasse le choix entre le mezcal et le sport. Et je me suis mis au mezcal à cette époque-là.
Alors, Luis Bertrand, donc, Gaz Natural réalise un chiffre d'affaires mondial de 44 milliards d'euros. Et vous êtes arrivé en France en 2005 pour quelque part conquérir l'Europe. Aujourd'hui, vos produits 100% gaz, mais pourquoi pas demain également de l'électricité?
Oui, tout à fait. Vraiment, c'est pas pour conquérir, vraiment, c'est pour servir à nos clients en tant que nous venons de Sud, comme vous tous savez.
Conquistador espagnol du 21e siècle, quand même.
Vous savez, il y a un certain atout, surtout pour desservir le Sud de la France en amenant des gaz de Sud. C'est un peu la construction des marchés européens. Ils nous sont pour offrir de mieux à nos clients et nous maîtrisons les transports de gaz dans surtout le sud de la France, en pouvant amener des gaz de nord de l'Espagne.
De nord de l'Espagne.
Cette création des marchés uniques a des avantages qu'on va servir aussi à nos clients en France.
Et donc aujourd'hui, hein, 100% en B2B, donc vous ne vendez qu'aux entreprises. Qui sont les principaux clients en France, en tout cas, de Gaz Natural?
Écoutez, ce sont des gros consommateurs. On connaît un peu plus tous les industriels. Et vraiment, on essaye d'offrir le mieux. Et je ne vais pas annoncer les noms, mais tous les grands entreprises de l'automobile, tout ça, ont plus ou moins passé un contrat avec nous quelquefois. On les a renouvelés, d'autres fois on a offert à d'autres clients de meilleures offres.
D'autres clients. En tout cas, ça marche bien parce que vous faites 300 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire national. La France, donc, on a une obligation d'ouverture à la concurrence depuis 2016. Est-ce que le marché français est réellement ouvert à cette concurrence? Ou alors on est encore un petit peu protectionniste? Ça ne devrait pas souvent, mais ça peut arriver quand même.
Oui, pour ne vouloir pas être méchant, on est arrivé à la date d'échéance de l'Union européenne pour ouvrir les marchés. Ça a été juillet 2007. Et depuis là-bas, on a avancé, mais c'est vrai qu'il y a encore un beau chantier à travailler encore.
Et donc, les plus, on verra un peu de pub là pour Gaz Natural, vous êtes quoi? Vous êtes moins cher et plus de services? Alors, et plus sympa?
Ce que nous maîtrisons, c'est un peu l'acheminement. Ça, c'est des coûts. C'est des coûts que des épargnes qu'on fait, on les offre aussi à nos clients. On doit être aussi toujours moins cher et accompagné de services qui doivent être dans la transparence pour combien comprendre la consommation, pouvoir offrir des conseils de l'épargne et des économies. Et après, essayer d'offrir des services d'accompagnement. Voir les études pour les chaleurs, pour l'électricité, même j'appelle ça un gazoduc virtuel. Les clients qui ne sont pas reliés au réseau, on peut les offrir GNL transportés par camion. Alors ce sont des atouts aussi que nous pouvons offrir à nos clients.
David Cobold.
Ce gaz, il émane d'où? Il est produit à partir de quoi?
Alors, il est parti depuis les jaciments qui existent et qui sont trouvés à partir des puits. Et après, normalement liquéfiés pour les transporter.
Et dans quel pays, les gisements de gaz, justement?
Nous approvisionnons dans une douzaine de pays.
Une douzaine de pays.
Une douzaine de pays. Et plus ou moins, vous savez que l'Espagne a été appelée un peu une île énergétique, mais qui est fournie et approvisionnée par GNL. Alors, GNL a l'avantage de pouvoir l'amener par bateau n'importe où. Alors, une fois on a chargé les bateaux, on peut l'amener à la côte méditerranée, on peut l'amener à la côte atlantique, on peut l'amener plus au nord ou plus au sud. Et ça, c'est un avantage pour nous qui se relie à l'avantage que je viens d'évoquer de l'approvisionnement par les sud de la France.
Alors, vous êtes un pur catalan, je le rappelle en début d'émission, vous êtes né près de Barcelone. Barcelone, on pense forcément au foot avec le Camp Nou. Mais alors, vous, c'est votre prof de mathématiques qui vous a initié au rugby.
Ah, tout à fait, c'est une histoire un peu bizarre, mais il était amoureux de les rugby et il nous a presque poussé en tant que nous étions gamins. Et il nous a proposé, obligé vraiment à jouer à rugby. C'était une très beau expérience parce que vraiment, on a compris un peu les liens des jeux et aussi ces choses que c'est...
C'est vrai que c'est pas évident à comprendre. Mais vous avez un club français que vous supportez particulièrement? Attention, on va vous tromper.
Je suis catalan, je suis pour le SAP, c'est clair. C'est pour les prochains champions de l'année prochaine et les champions d'il y a deux ans.
Alors, je sais que vous écoutez chaque week-end Invino BFM donc à Barcelone, hein, le samedi à 10h et le dimanche à 16h sur le site internet www.bfmradio.fr. Vous, côté vin, vous êtes plutôt blanc, rouge ou rosé?
Alors, je suis un peu plus blanc parce que je suis né dans une région de la Catalogne qui est concurrentielle de la Champagne. Ça s'appelle les Penedès, on fait les cavas. Et j'ai goûté peut-être dans ma jeunesse aussi plus les blancs. Je les aime tous, bien sûr, avec les rouges. Et si vous voulez, je suis tombé amoureux de la Bourgogne.
La Bourgogne, on va y arriver sur la France. Alors, le cava, vous préférez les bulles françaises ou espagnoles? Cava ou champagne?
Alors, je dois vous dire qu'il y a chaque produit pour chaque situation.
Soyez franc, Louis Bertrand, soyez normal, soyez catalan, franc.
Alors, si vous voulez vraiment seulement goûter en coupe avec un petit apéritif, les champagnes. Mais si vous voulez boire avec les dîners ou accompagner les repas, les cava.
Le cava. Pierre Guigui, vous avez une tête à aimer le cava, vous, non?
Oui, oui, j'ai goûté. J'aime bien les vins Penedès, effectivement, les blancs. Très intéressant. Les cavas, très honnêtement, je préfère le champagne au cava.
Bourgeois, voilà. Là, on est vraiment bourgeois.
Désolé, non, c'est vraiment une question de goût. C'est pas une question de bourgeoisie, c'est une question de
gold. On en produit beaucoup de cava. Je crois que les exportations de cava sont
formidables. La cava, et particulièrement, j'ai des souvenirs extraordinaires des vins d'Albet et Noya, qui fait également des vins tranquilles, mais qui fait des cavas magnifiques, et c'est pas le seul. Torelli aussi.
C'est à côté de Villafranca où je suis né, à Saint-Sauveur.
Oui, on a vu votre statue d'ailleurs en passant en vacances. C'est Philippe Forbach.
Oui, moi j'aime beaucoup le cava, surtout lorsque je suis sur place finalement.
Parce que c'est dans le contexte. Nous sommes d'accord, il y a un marché
dans
pour
le contexte.
Les deux.
On est gâté, mais le champagne est le champagne. C'est un peu irremplaçable.
Le cava est très bien sur place, exactement. C'est bien, Philippe.
Oui, ouais, je pense qu'on a quelquefois fait des dégustations à Bègle et vraiment, on a été bien concurrentiels.
Exactement, il y a de très beaux cavas.
Attention. Non, mais ça, ce qu'il dit, c'est bon à déguster sur place, mais pas à ramener. Il y a quand même une petite note négative dans l'histoire.
Ce réseau me semble bien la.
Alors, on arrive sur la cuisine. On recevra tout à l'heure Guy Savoy. Vous, à titre personnel, on m'a dit que vous étiez champion du monde des spécialités catalanes. Alors, qu'est-ce que vous nous préparerez un jour, peut-être, Louis Bertrand?
Écoutez, ici, je vous offre même sur place à Paris. Il y a des escalivades. Il y a de...
Alors, l'escalivade, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la chance de connaître ce beau pays catalan, enfin, on va arrêter d'être chauvin. Donc, qu'est-ce que c'est l'escalivade?
C'est de la braise. Alors, on peut mettre presque toujours la braise, mais on appelle l'escalivade avec les poirons, et les tomates et l'auberge.
D'accord.
Mais après, il y a les calçotes, qui sont très catalans aussi, que c'est des petits oignons qui sont très, très tendres, qui on peut les faire à la flamme, parce qu'ils sont tellement tendres qu'ils sont cuits très, très vite. Et ça, je l'ai préparé pour pas mal d'amis ici à Paris. Et la prochaine mois de février, vous serez invité si vous voulez goûter.
Ah ben c'est pas tous les auditeurs, on a à peu près 3 milliards d'auditeurs, donc faut rester, vous avez une grande maison. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de vin justement avec ces spécialités catalanes qui nous donnent envie de les déguster, mon cher David?
J'irai directement dans la région, c'est toujours la première étape, c'est souvent la bonne étape d'ailleurs. Je prendrai des blancs catalans parce que je pense qu'avec ce genre de choses que vous décrivez, des légumes, c'est plutôt blanc que rouge.
C'est pas qu'il y a des blancs. Et côté vin français, donc vous l'évoquiez tout à l'heure, la Bourgogne, vous êtes un adepte du Pinot Noir?
Oui, peut-être.
À Pinot Noir ou Chardonnay? Parce que ceci dit, en Bourgogne, il y a aussi les blancs. Je pensais aux rouges, mais c'est plutôt les blancs, vous dites.
Écoutez-moi, je reviens un peu en arrière. Je dois ajouter qu'avec les oignons, on ajoute des sauces qui est d'un mélange où il y a des fruits secs. Alors ça, c'est une piste pour dire que c'est plus les rouges qui accompagnent les calçotes.
Et une appellation de Bourgogne que vous aimez particulièrement?
Sachant de Montrachet, c'est peut-être...
Il y a pire en blanc ou en rouge?
En rouge et en blanc, les deux.
Eh bien, vous êtes un homme parfait. Merci Louis Bertrand, je rappelle que vous êtes le patron Europe de Gaz Natural. Vous restez à nos côtés parce qu'on va recevoir donc Guy Savoy dans quelques instants. Vous avez déjà déjeuné ou dîné chez Guy Savoy?
Oui, j'ai eu le plaisir.
Et bien voilà, vous l'allez avoir en live dans 3 minutes.
BFM Weekend.
Exposition Bababling, signe intérieur de richesse à Singapour, au musée du Quai Branly. L'histoire fascinante de la culture luxueuse, raffinée et parfois bling des Peranakan, communauté chinoise de Singapour. Près de 500 œuvres exceptionnelles, présentées pour la première fois en Europe. Bababling, signe intérieur de richesse à Singapour, au musée du Quai Branly.
Lille accueille les Oscars des Bordeaux. BFM et Planète Bordeaux invitent tous les passionnés de vin de Bordeaux à élire les 5 Bordeaux rouges de l'année. Rejoignez un jury de dégustateurs amateurs pour une découverte des AOC Bordeaux coup de cœur millésime 2008 le jeudi 21 octobre au restaurant Au bout des doigts à 19h, 5 rue Saint-Joseph à Lille. Participation gratuite et réservation sur bfmradio.fr dans la rubrique Invino. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Campagne financée avec le soutien de l'Union Européenne et la région Aquitaine.
Ceci est un message du Journal du Golf.
Ce mois-ci, dossier spécial Ryder Cup. Nos envoyés spéciaux Pays de Galles reviennent sur la fabuleuse victoire de l'équipe européenne. Retrouvez également dans ce numéro un portrait de Sean Foley, le nouveau coach de Tiger Woods. Journal du Golf, c'est aussi ses rubriques habituelles, de la page histoire à la planète golf.
Retrouvez gratuitement le Journal du Golf chaque mois dans votre clubhouse.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Radio.
Retour chez Pochon à Paris pour accueillir notre deuxième invité, Guy Savoie. Bonjour Guy.
Bonjour.
Alors il paraît que vous avez eu le déclic côté cuisine à l'âge de 15 ans. Est-ce que c'est à cause de, grâce plutôt, aux langues de chat préparées par votre grand-mère? Racontez-nous.
C'est même par ma maman et c'est peut-être même avant 15 ans, je crois que... Non, j'ai été fasciné ce jour-là par un instant magique. Un instant magique, pourquoi? Parce que je l'ai vu mélanger du sel, ça m'a beaucoup surpris, pour des gâteaux, je pensais qu'avec du sucre. Du sucre, donc bien sûr, de la farine, des œufs, elle a mélangé tout ça, elle a fait ses petits boudins sur une plaque, et en quelques minutes, ces boudins sont aplatis, ont bronzé, comme j'ai dit à l'époque, sur les côtés, sont devenus croustillants, ça sentait bon. Mais j'ai dit, si la cuisine c'est ça, c'est donc magique. Et moi, je veux faire de la magie, voilà, tout simplement.
Alors 2002, pour vous, c'est l'un des meilleurs millésimes, hein, rappelez-nous, ça a été la consécration, une double consécration, au moins.
Oui, enfin, c'était l'année des trois étoiles, et c'est vrai que pour un cuisinier, c'est la consécration. Et oui, je crois que c'est bon, lorsque vous faites votre métier et qu'un jour vous atteignez le sommet, c'est-à-dire que ce soit le sommet des tocs chez Goemio ou des étoiles chez Michelin, c'est évident que c'est une reconnaissance, c'est un label bien sûr qui rassure les convives qui viennent chez vous, voire qui encourage ceux qui n'ont jamais pensé pousser la porte, mais ça les encourage à venir chez nous.
Et être élu chef des chefs par vos pères, c'est quoi? C'est équivalent aux trois macarons?
Oui, mais c'est d'ailleurs, vous savez, bon, c'est vrai que la tradition veut un peu maintenant que le nouveau 3 étoiles est souvent élu chef de l'année. Oui. Donc voilà, c'était mon cas en 2002. Et c'est vrai que c'est toujours cette double reconnaissance est émouvante, je crois que la troisième étoile a été un événement fort et l'élection par les autres chefs a été un autre élément très fort.
Dans votre actualité,
il y a des bons millésimes, c'est vrai. Mais celui-là est un très bon.
Et 2002 pour le reste, Philippe Aurac.
Côté vin, ça a donné des vins d'un bon rapport qualité-prix.
Pas mal.
Mais c'était pas un grand millésime.
Alors j'ai donc tout pris. J'ai tout pris
pour certains champagnes.
Votre actualité, Guy Savoie, donc c'est l'ouverture en juin dernier d'un super restaurant à Singapour.
Oui, dans le nouveau complexe, d'ailleurs, le premier hôtel casino de Singapour, qui s'appelle le Marina Bay Sands. Bon, tout le monde l'a vu, c'est celui qui a cette piscine à 200 mètres de hauteur, une piscine qui fait 150 mètres de long. Bon, premier hôtel casino de Singapour, ce qui est un événement dans une ville très, très stricte. Et là, bon, je partage en fait un étage avec mes confrères Tetsuya Wakuda, Santi Santa Maria, notre ami espagnol. Et voilà, donc et vont nous rejoindre d'ici la fin de l'année Wolfgang Pock de Los Angeles, Daniel Boulud
ça,
de New York,
une bonne fréquentation, tout ça.
Et Mario Batali. C'est vrai que dans cet hôtel, il va y avoir une vraie concentration de bonne cuisine et de bons restaurants.
Et là,
ça va faire quelques étoiles. C'est 9 étoiles en tout cas.
Et est-ce que c'est facile d'appréhender justement les différences socioculturelles en matière de cuisine quand vous débarquez dans un pays?
Oui, c'est-à-dire que bon, Marina Bay Sands, c'est le nom d'hôtel, a sollicité différents chefs. Quel était leur souhait? Leur souhait était de retrouver dans ces différents restaurants leur typicité. Donc, moi, l'objet du restaurant, c'était de reproduire là-bas.
Du Guy Savoie français là-bas.
Voilà, tant dans l'atmosphère que dans l'assiette, exactement ce qu'on fait à Paris. Et c'est ce qu'on arrive à faire. Bon, tous les produits qu'on ne trouve pas sur place arrivent de Paris. Le décor est délibérément contemporain comme à Paris. C'est un frère jumeau de Paris.
Alors c'est marrant parce que quand les chefs sont connus, ils déclinent leur nom et leur marque à l'infini, on ne les voit plus dans leur cuisine. Vous êtes quasiment tout le temps chez vous.
Oui, si on reprend l'histoire, bon, il y a
Paris. Ah, mais c'est rare, malheureusement.
Il y a Paris, Las Vegas, c'est mon fils qui s'en occupe, donc c'est vrai que ma présence là, cette année, j'y serai allé une fois, donc. Et entre le 1er et le 8 mai, là où il y a tous les ponts chez nous, donc on était fermés. Bon, Singapour, c'est vrai que je suis allé pour l'ouverture, mais là aussi, j'ai une équipe très très solide qui a été formée rue Troyon, donc oui, je suis en toute confiance. Ça pour moi, un restaurant, soit. On y est tout le temps, soit on n'y est jamais. Donc,
oui, je veux dire. Alors, en parallèle de la cuisine, vous avez une passion, on en parle parfois à bord d'une vidéo BFM, c'est le rugby. Est-ce que vous avez un pronostic pour le top 14 cette année, Guy?
Pour le devant un Catalan, c'est un peu.
Oui, un Catalan. Je précise pour ceux qui prennent l'émission en route, parce qu'en première partie, on recevait Louis Bertrand, le directeur général Europe, de Gaz Natural.
Je crois qu'il y a aujourd'hui, dans le top 14, la moitié, enfin, il y a 7 clubs qui peuvent espérer être champions de France, et puis 7 autres clubs qui se bagarrent pour ne pas tomber en Pro D2.
Donc, ça fait 2 championnats quelque part.
Voilà, il y a 2 compétitions en une, absolument.
Au niveau du très copain avec Pierre Martinet, c'est vrai ça?
Absolument.
L'ancien président du club de Bourgoin, le traiteur intraitable.
formidable. Très, très bon ami.
Alors, c'est une tradition dans une vidéo BFM, c'est la bonne recette du chef. Alors, vous nous parlez de cèpes comme carpaccio.
J'espère qu'on trouve toujours des cèpes. Enfin, moi, j'ai pu en trouver quelques-uns, donc tout le monde peut en trouver. Donc, c'est des cèpes qui sont servis crus. Donc, alors, le cèpe, bien sûr, on doit le prendre le plus ferme possible. Hein, il doit être même très, très dur au toucher. Il faut éviter de le laver parce qu'en principe, ils sont très, très propres. Alors, s'ils ont un peu de terre, on les taille comme un crayon, c'est-à-dire on ne sectionne surtout pas le pied. On suit le pied avec un couteau pour juste enlever les quelques particules de terre qu'il y a à ce moment-là. Puis après, on les émince hein, dans le sens de la longueur sur 2-3 mm parce que c'est important de mordre dedans. Et puis, vous les assaisonnez de sel, de poivre, un peu de citron, un peu d'huile d'olive. Et moi, je dispose donc ma rosace de cèpe dans l'assiette. Et un cèpe sur deux, donc une tranche sur deux, avec un pinceau, je passe du jaune d'œuf mollet. Donc vous avez à la fois un apport de goût, et puis visuellement...
C'est joli en plus.
C'est joli. Quelques feuilles de roquette. Je sais bien que pour le vin, c'est pas facile. Mais mon cher Philippe, je connais tes talents et je suis sûr que tu vas nous trouver ce qu'il faut pour...
Justement, Philippe, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de vin avec ce carpaccio-là?
Un vin blanc, plutôt. Hein. Alors, on pourrait, pourquoi pas, s'amuser en Savoie avec un chignon bergeron, avec suffisamment de gras et de densité, tout en gardant la minéralité. Si on veut monter en gamme dans les Bourgognes, et je pense que la clé, c'est garder de l'acidité et avoir un peu d'âge. C'est avec le champignon, d'avoir un côté un peu épanoui, légèrement automnal, c'est pas mal. Donc on pourrait aller par exemple dans la région du Mâconnais, un fuissé par exemple, de 6-7 ans d'âge en blanc.
Donc ça va de 6 euros pour les vins de Savoie jusqu'à plusieurs dizaines d'euros.
Exactement, voir d'en parler. Un champagne un peu vieilli, ça marche aussi très bien.
Et pour terminer, vous Guy Savoie, votre bouteille coup de cœur, le vin que vous avez le plus ému dans votre jeune carrière, est-ce qu'il y a une bouteille?
Dans un univers aussi vaste, c'est tellement difficile de se limiter à une bouteille. Ben, je vais parler de la dernière émotion, c'est Crozes Hermitage 1998, avec des notes d'olive noire, ce que j'avais jamais trouvé chez un jeune Crozes, hein, qui est plutôt sur la cerise noire et le poivre. Et là, on avait l'impression d'avoir du cuir et olive noire, et c'était avec un poisson qui avait également des olives dans le jus. Et j'ai trouvé le et je ne pensais vraiment pas que ça pourrait fonctionner avec un Crozes Hermitage. Et bien là, ça fonctionnait parfaitement.
Merci Guy Savoie et bon vent pour vos multiples projets. Une vidéo merci. BFM, on retrouve maintenant Philippe Forbrac, notre meilleur sommelier du monde, qui va nous parler de l'appellation Sainte-Croix-du-Mont, Philippe.
Oui, Sainte-Croix-du-Mont, c'est une petite appellation de la région bordelaise qui est située dans le terroir de l'Entre-deux-Mers, dans sa partie sud, le long de la Garonne, jouxte les appellations Loupiac ou encore Cadillac. Donc on n'est pas très loin de Sauternes, face aux fameuses petites collines de Barsac, sur des contreforts en bordure donc de la Garonne. Alors c'est une appellation dont j'ai envie de parler parce que c'est vrai que quand on pense aux grands liquoreux du Bordelais, on a plutôt tendance à penser à Sauternes, bien entendu, et c'est légitime, ou à Barsac. Mais Sainte-Croix-du-Mont joue pour moi également dans la cour des grands. Il y a de très bons domaines. Il y a un terroir à la fois historique et géologique tout à fait particulier. Historique parce que la région est peuplée depuis très longtemps, que les Anglais, n'est-ce pas, mon cher David Cobbold, ont beaucoup œuvré dans cette région, on leur doit d'ailleurs beaucoup, et notamment l'un des édifices phares de cette commune, qui est le château de Taste, qui a été construit au 19e siècle par les occupants anglais de l'époque, et qu'ils ont habité, bien entendu... 12e siècle. Je veux bien préciser le 12e siècle.
Non, mais c'est la période des Anglais. Continue.
Exactement. Mais c'est vrai qu'ils sont partis après la bataille de Castillon, donc à partir de 1453.
On revient.
J'ai bien compris. Et beaucoup d'Anglais viennent visiter d'ailleurs ce château magnifique. Ça, c'est la première spécificité historique. La deuxième, c'est qu'il y a un banc d'huîtres fossilisées dans cette appellation, notamment sous le château dans lequel on a creusé des caves magnifiques, mais également dans une partie du terroir. Et donc on sait que l'influence de la géologie est énorme dans la perception du vin. Et dans cette région, on a des vins qui ont donc à la fois du fruité, de la minéralité extraordinaire, et des vins vraiment d'une capacité de séduction absolument extraordinaire.
Ah oui, c'est très séduisant, oui.
Exactement. Alors, on produit donc ces vins liquoreux,
à partir de raisins traditionnels. C'est le sémillon, avec cette peau épaisse, qui va donner une propension à prendre le botrytis et à conserver la nature du fruit d'une façon tout à fait admirable. Le sauvignon, en complément, apporte du côté aromatique, un côté un peu plus facile à boire. Et la muscadelle, cette fantaisie gustative finale qui apporte un peu de complexité, notamment lorsqu'il vieillit. J'aime beaucoup ces vins qui sont à la fois des vins donc moelleux, qui peuvent se boire jeunes. Un Sainte-Croix du Monde de 2-3 ans d'âge, c'est déjà superbe.
Comment ça coûte d'ailleurs, Philippe?
Que l'on peut garder assez longtemps. Alors ça dépend des châteaux, des cuvées et des millésimes, parce que comme toujours dans le Sauternes, on fait les vendanges par tri successives en fonction de l'évolution de la fameuse pourriture noble. C'est le principe même des vins liquoreux du Bordelais et des vins liquoreux d'une façon générale. Donc on peut avoir des vins autour d'une dizaine d'euros. Et on peut avoir des cuvées spéciales qui peuvent coûter plusieurs dizaines d'euros, mais c'est souvent justifié eu égard à la qualité des vins.
Pierre Guéguet.
C'est même un très 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 bon rapport qualité-prix, avec des vins qui sont effectivement merveilleux, qui apportent beaucoup de plaisir jeune, comme tu le disais, vous le disiez Philippe, mais un très bon rapport qualité-prix.
Philippe Arbrac, pour conclure, donc quelques vignerons valeureux.
Oui, pour conclure, quelques vignerons et quelques recettes aussi.
Bien sûr. Devant Guy Savoie par les cuisines, il faut être gonflé quand même.
Je sais bien, mais je.
Allez-y.
Un petit médaillon de veau mori, par exemple, avec une sauce légèrement crémée. On peut servir un Sainte-Croix du Mont un peu jeune. En saison, lorsque le melon est bien mûr, alors espagnol ou de Cavaillon, comme il vous sied, une soupe de melon avec simplement arrosé. Dans la sauce, enfin je veux dire servi avec, ça fonctionne aussi très bien. Les foie gras, les pâtes persillées, les desserts à base de fruits d'une façon générale. Alors, soit jeune, on va aller sur des fruits frais, soit lorsque l'on prend le temps d'attendre sur des fruits secs.
Et prenons le temps de donner quelques bonnes adresses,
exactement,
peut-être, de vignerons.
Exactement, le château Larame, magnifique, notamment sa cuvée réserve, le château des Miales, l'Oustauviel, qui est un très bon domaine, le château Bel Air. Il y a beaucoup de Bel Air dans ta gauche, mais celui de Sainte-Croix-du-Mont vaut la peine aussi.
Merci Philippe Arbrac, on marquait une pause traditionnelle pour les infos, et puis ensuite cap sur César Giron, le président de Pernod qui sera à nos côtés, et un débat assez étonnant consacré au style du redouté expert américain Robert Parker.
BFM Weekend. Marchand d'or de père en fils, la Bourse de l'Or vous rachète au cours du jour vos lingots et vos pièces d'or, ainsi que vos collections numismatiques, bijoux anciens, pierres précieuses et pièces d'argent démonétisées.
La Bourse de l'Or, le spécialiste de l'or.
La Bourse de l'Or à Enghien-les-Bains, 4 avenue de la Ceinture en face du casino.
La Bourse de l'Or, 01 39 89 17 75. 01 39 89 17 75.
L'expertise est offerte.
BFM Radio, la radio de l'écho.
BFM Weekend, 10h30. Les infos, David Loba.
La CGT ira jusqu'au bout. Déclaration de Bernard Thibault, quelques heures d'une 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 241 cortèges sont prévus dans toute la France, avec tout de même une grande question. Quelle sera la mobilisation? Le texte en effet a été adopté par le Parlement. Les vacances sont passées par là. Résultat, chacun tente de mobiliser ses troupes. Les organisations de lycéens et d'étudiants appellent d'ailleurs les jeunes à se joindre au mouvement. Un nouveau rendez-vous est d'ores et déjà programmé entre les 22 et le 26 novembre. Changement de trajet pour le train de déchets radioactifs retraité par Areva. Parti hier de Normandie à destination de l'Allemagne, le convoi a été bloqué durant plusieurs heures par des militants de Greenpeace à Caen. À l'origine, le train composé de 14 wagons et contenant 123 tonnes de déchets vitrifiés devrait passer par Arras, Valenciennes ou encore Charleville. Il empruntera finalement les gares d'Amiens, de Reims, de Châlons-en-Champagne et de Metz. Hu Jintao n'a plus que quelques heures à passer en France avant de s'envoler pour le Portugal. Le président chinois à cette occasion en profitera pour visiter du côté de Nice l'usine de Schneider Electric. Hier, l'homme le plus puissant du monde, selon le magazine Forbes, a dîné avec Nicolas Sarkozy et son épouse, et le chef de l'État français a affirmé avoir évoqué en sa compagnie l'épineux dossier des droits de l'homme. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi, il y a des limites à tout. Déclaration de Claude Guéant ce matin dans le journal du dimanche. Le secrétaire général de l'Élysée ainsi que Bernard Squarcini, le patron du contre-espionnage français, annoncent leur intention de déposer plainte en diffamation. Tous deux avaient été mis en cause par le Canard Enchaîné. Ils sont accusés de piloter les opérations illégales de surveillance des journalistes enquêtant sur les dossiers sensibles. Attention, à partir de lundi, les cigarettes coûteront plus cher, une hausse de 6% en moyenne. Le secrétaire d'État américain au Trésor, Timothy Geithner, juge qu'il existe un large consensus parmi les nations pour contenir les déséquilibres excessifs des comptes courants, des déséquilibres qui, selon lui, menacent la reprise économique mondiale. La cote de confiance de Nicolas Sarkozy augmente d'un point, celle de François Fillon de 4 points. Les deux hommes se retrouvent donc respectivement à 32 et 41% de bonnes opinions. C'est ce qui ressort du baromètre mensuel CSA publié dans Le Parisien aujourd'hui en France. Al-Qaïda dans la péninsule arabique revendique sur un site internet l'envoi des colis piégés trouvés la semaine dernière en Grande-Bretagne mais aussi à Dubaï. Des colis qui avaient été chargés dans des avions cargo. Par ailleurs, ACPA également revendiqué l'explosion d'un avion cargo au début du mois de septembre, également à Dubaï. On termine avec du sport. 12e journée de championnat de France de Ligue 1 ce week-end avec deux matchs phares. Tout d'abord à 21h ce soir, Rennes-Lyon. Et puis demain, le Classico PSG Olympique de Marseille. BFM Radio, il est 10h33. Vous retrouvez la suite d'Invino BFM avec Alain Marty.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Radio.
C'est reparti pour Invino BFM. Nous sommes toujours chez Fauchon à Paris, place de la Madeleine, pour accueillir notre nouvel invité, César Giron, le président de Pernod. Alors César, vous avez écouté le début de l'émission. On avait Louise Bertrand, un Catalan qui était à nos côtés, le directeur général de Gaz Natural. Et vous aussi, vous avez vécu à Barcelone.
J'ai vécu pendant 2 ans à Barcelone et je confirme que le cava est un très très bon vin qui est très agréable à consommer. Sur place aussi, parce que je crois qu'il y a un grand plaisir à consommer le vin dans sa région de production.
Pour vous, ça ne s'exporte pas, ça? Parce qu'on entendait Pierre Guigui tout à l'heure qui en parlait avec une certaine ironie qui le caractérise parfois.
On a des vins formidables en France et moi je sais que j'aime bien le café de Paris. Bon, voilà.
Voilà, par exemple, voilà au hasard. Alors vous avez également vécu en Suisse et il paraît qu'il y a une polémique en ce moment avec nos amis suisses à propos de l'absinthe. Alors éclairez-nous, César Giron.
Ah, c'est merveilleux. Ça, c'est un problème bien français. En 1914, est votée une loi pour interdire la production d'absinthe, sous le prétexte que l'absinthe rendrait fou.
Une loi en France.
Une loi en France. Et là, du coup, l'absinthe est interdite en Suisse et dans pas mal de pays. En 81, le Conseil de l'Europe autorise l'utilisation de thuyone, qui était l'ingrédient qui rendrait fou dans l'absinthe, autorise la réintroduction de cet ingrédient dans les boissons spiritueuses. En 88, je crois que c'était Michel Rocard, écrit un décret de loi dans lequel il est précisé que ça y est, on a le droit de reproduire l'absinthe, mais on ne peut pas l'appeler absinthe, on l'appelle spiritueux à la plante d'absinthe. Et donc maintenant, on se retrouve encore, on va dire 95 ans plus tard, avec la possibilité de produire l'absinthe, avec les mêmes recettes que l'époque, sauf qu'on ne peut pas l'appeler absinthe. Nos amis suisses flairant la belle aubaine, c'est ben nous, on va créer une indication géographique protégée. Donc, je précise que c'est nos amis suisses du Val de Travers, parce que tous les Suisses ne sont pas d'accord là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils déposent une indication géographique protégée pour dire, voilà, l'absinthe, elle ne peut être produite qu'au Val de Travers. Et donc, si on ne fait rien, ben, ça veut dire que les Français, nous ne pourrons plus produire d'absinthe, parce qu'il est toujours interdit en France de produire une boisson qui s'appelle absinthe. Donc, vous pouvez faire de l'absinthe. Vous ne pouvez pas l'appeler absinthe.
Vous avez peut-être trouvé un gentleman agreement avec eux, parce qu'ils ne sont pas stupides, les Suisses, là. On ne va pas avoir fait des procès pendant des années. Ah si, Pierre Guigui, vous dites qu'ils sont. Non, c'est pas vrai, ils ne sont pas stupides.
J'ai rien dit du tout.
Si, vous, chez du chef, rapote. David Cobol, vous en pensez quoi, là, cette polémique sur l'absinthe?
C'était un cas de plus d'une hypocrisie totale en France. Mmh. C'est absolument grotesque.
Oui, enfin, la position des Suisses n'est pas terrible quand même.
Non, mais les Suisses profitent. Ça fait, à mon avis, un peu écho à cette histoire de Champagne, où ils ont produit un vin à bulles appelant ça Champagne, parce qu'il y a un village qui s'appelle Champagne, parce qu'il y a beaucoup de villages qui s'appellent Champagne. On appelle, c'est du latin Campania. Et ils ont eu un procès du CEVC, ça a été très très compliqué à gagner, donc ils essayent de grappiller des petits points comme ça. C'est malin, c'est pas très intellectuellement honnête.
Tu peux
très
faire.
Non, mais avec les Suisses, ça peut toujours s'arranger.
Oui, ça va le faire.
Quelques banquiers, quelques. Voilà. Non, taux de change favorable, ça fonctionne.
Alors, cette polémique. Et vous, à titre dans le groupe, donc la production et la vente d'absinthe, c'est un marché marginal peut-être.
Ce sont des petites quantités, puisqu'en fait, on a vraiment pu reproduire de l'absinthe qu'à partir de 2001. On la vend surtout à l'international, mais on remarque aujourd'hui qu'il y a pas mal de bars, notamment sur Paris, qui recommencent
à la mode,
le rituel de l'absinthe, et surtout dans des régions comme Pontarlier, les gens ont toujours bu de l'absinthe, ils continuent à en boire, et on peut en boire Avec modération et beaucoup de plaisir.
Et beaucoup de plaisir. Alors, vous êtes patron de Pernod depuis juillet 2009. Côté whisky, alors pour vous, c'est lune de miel, ça marche super bien. Aberlour, premier en France, en valeur et en volume.
Ah, c'est formidable. C'est comme quoi les marques se créent doucement. Elles se créent sur la durée. Et je crois que l'entreprise Pernod avait démarré le lancement d'Aberlour il y a une vingtaine d'années. Et je trouve que c'est formidable. On sent bien que les marques d'alcool, c'est des produits d'hommes et de passion. Et c'est formidable de voir que 20 ans après, aujourd'hui, Aberlour est en train... Aberlour, en fait, joue un rôle remarquable en France. C'est que ça a initié le consommateur à la découverte des produits premium et de l'excellence au travers des spiritueux. À un moment donné où le cognac commençait à être un petit peu moins consommé en France, les gens sont revenus vers la consommation de boissons spiritueuses premium au travers des malts. Et c'est formidable de voir qu'aujourd'hui, celui qui a initié ça, aujourd'hui, on récolte les fruits.
Alors, dans votre portefeuille de marque, vous avez aussi une très, très belle maison, le champagne Moom. Alors, comment s'est comporté Moom pendant cette grande braderie du champagne sur le marché français? Ça a été tout et n'importe quoi, quand même, César Giron.
Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une énorme braderie du champagne. Et pendant ce temps, les vins pétillants n'ont pas arrêté de progresser, et partout dans le monde. Donc, ça, c'est intéressant de bien voir qu'il y a une consommateur des vins pétillants et les consommateurs champagne. Sur Moom, je pense qu'on met du temps à créer des marques, on met du temps à créer de la valeur. Et donc, nous avons décidé l'année dernière de ne pas baisser nos prix. Donc, on a perdu des volumes. Mais on a perdu des volumes, pas tant du fait que les gens en consommaient moins à la maison, mais plus du fait que les gens allaient moins consommer dans les cafés, hôtels, restaurants, qui pour nous représentent plus de la moitié des volumes de Moom consommés. Les gens allant moins au restaurant, consommaient moins de Moom. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette stratégie a payé, puisque maintenant, depuis 6 mois, les ventes de Moom sont reparties à la hausse. Donc comme quoi, c'est toujours les marques en cas de crise où on baisse pas les prix qui reprennent le plus vite par la suite.
Pierre Guigui.
Je crois que vous avez augmenté la qualité des vins de réserve de chez Moom. C'est-à-dire qu'il y a une qualité qui est de plus en plus remarquable chez Moom depuis, disons, 5 ans. Vous avez fait beaucoup d'efforts sur ce qu'on appelle les vins de réserve, entre autres, et sur le temps de latte, c'est-à-dire le temps de conservation des vins chez vous avant de les mettre en vente.
Vous avez tout à fait raison. Suite au rachat de la marque Moom par le groupe Pernod Ricard, il y a eu un vrai effort de qualité qui a été fait sur la sélection des raisins, sur la création des vins de réserve. Et là, maintenant, on monte doucement en gamme. On vient de lancer ce qu'on appelle la gamme expert avec un blanc de noir et un blanc de blanc. Le blanc de noir donc du village Verzenay, donc avec toute la minéralité des Côtes d'Auvergne qui est merveilleuse.
Et le fameux moulin.
Et le fameux moulin que l'on voit dès qu'on arrive sur Reims. Et le blanc de blanc qui, là, sont des chardonnays de village de Cramont.
Excellente facture. Philippe Aubrac.
Oui, et puis vous avez relancé il y a quelques années aussi la cuvée René Laloux.
René Laloux.
Ah oui, la star.
Qui est magnifique, avec dans le Mim 98. Et vous avez une spécificité, c'est le fameux Moom de Cramont, qui est un blanc de blanc dont vos confrères champenois rêvent.
Voilà, et donc auquel on a rajouté aujourd'hui. Donc c'était le blanc de blanc, et donc on vient de rajouter aujourd'hui le blanc de noir.
Et pour terminer, le marché de la vodka, toujours aussi dynamique en France?
Alors le marché de la vodka est un marché formidable. On a un peu de mal à créer de la valeur sur ce marché, peut-être parce que la vodka passe pour un alcool sans goût, alors que pour avoir travaillé auparavant en Pologne, je peux vous garantir que les vrais vodkas, lorsque la sélection des ingrédients est bien faite, notamment sur notre vodka exquisite qui est faite avec le seigle qu'on appelle le seigle d'or, lorsque c'est distillé proprement, ça vous donne des vodkas à base de seigle qui sont remarquables, puisque en final, elles ont des notes sucrées. Et beaucoup de mixologues utilisent ces vodkas, notamment dans les cocktails dans lesquels il y a des fruits frais, puisque la note sucrée en finale rehausse toutes les saveurs des autres éléments du cocktail.
Merci César Giron, bon vent pour la société Pernod que vous présidez depuis 2009 en France. Individu BFM retrouve maintenant Pierre Guigui, rédacteur en chef vin de Gobillo, qui s'intéresse à un type qui est assez étrange, en tout cas Dixit David Cobold, de Robert Parker.
Oui, Robert Parker. Depuis quelques années, on entend parler de Robert Parker, et parfois dans les échos des salons, on entend dire que Robert Parker, le style serait en train de disparaître. Alors je suis un peu étonné, c'est vrai que les critiques sur Robert Parker viennent des États-Unis, notamment avec Mondovino. Nocitaire, qui a opposé le style Robert Parker.
Le film Mondovino.
Il a opposé le style Robert Parker, qu'il a défini comme étant, je dis bien, il l'a défini comme étant un style de vin fabriqué, contre des vins qui étaient plutôt des vins d'artisans. Ensuite, il y a eu une jeune femme qui s'appelle Alice Fehring, qui a écrit un livre qui s'appelle La bataille du vin et de l'amour, qui, elle, oppose le style Parker, qu'elle définit également comme un style préfabriqué, avec ce qu'elle appelle, elle, les vins naturels. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que ces critiques sur le style Parker viennent des États-Unis. En France, très rarement, on s'est autorisé à dire des critiques sur le style Parker. On constate une chose évidente, c'est que le style Parker est lié très fréquemment au goût du vin, et à savoir surtout au goût de la barrique. Alors, on constate qu'en 82, à peu près, c'est à l'époque où Parker a été reconnu. a eu une grande médiatisation. Et en 85, c'est l'année où les barriques ont été vendues avec énormément de succès. Beaucoup de vins qui ont été faits avec des barriques 100% fût neuf, ce qu'on appelle 100% fût neuf, jusque dans les années 90 à peu près, où là, c'était l'explosion. 90, c'est les vins de garage, c'est les 200% fût neuf, c'est-à-dire vinifié en fût neuf.
On boit du bois, quoi. Enfin, faut appeler un bois.
Élevé en fût neuf. C'est à peu près ces époques-là. Avant 70-80, les barriques étaient utilisées uniquement pour l'élevage, sans beaucoup de fût neuf, et certainement beaucoup plus pour les réparations de fût. Hein, les tonneliers faisaient des réparations de fût et rarement de fût neuf. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on commence à dire aujourd'hui, parker, le style change, ça s'adoucit, les chauffes, effectivement, commencent à être plus douces.
Et c'est quoi une chauffe?
Les chauffes, alors les chauffes, c'est ce qui permet de cintrer les douelles, cintrer les planches, on va dire, pour résumer.
Donc là, on raisonne par rapport au tonneau,
au tonneau,
à la barrique,
tout à fait, tonneau, la barrique. On va chauffer le bois pour pouvoir le cintrer. Et selon la chauffe, on va avoir des résultats différents en termes de goût. Alors, plus on chauffe, plus on va vers le grillé, le pruneau, des fois la vanille, la noix de coco, etc.
Et ça, ce sont des goûts, Pierre Guigui, compréhensibles par tout un chacun, y compris pour des vins relativement jeunes, c'est ça?
Alors, tout à fait. C'est ça le problème. Le problème, c'est que la barrique neuve, quand un vin est fait pour être gardé sur 20 ans, le goût de la barrique va s'estomper et on retrouve la trame du terroir. Quand on goûte un vin jeune avec effectivement barrique neuve, on est sur un vin stéréotypé parce que ce qui ressort, c'est plus le fruit ni le terroir, mais le goût de la barrique. Chose étonnante, c'est que supposons que le style Parker soit en train de se déliter.
Ce qui est votre cas, enfin, vous pensez ou pas?
Moi, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, l'utilisation des copeaux de bois, par exemple, qui sont utilisés sur les vins de pays et aussi sur les vins d'AOC, permettent d'aromatiser le vin. Donc, je ne crois pas à la disparition du style Parker parce que le style Parker, c'est pas Parker en lui-même, c'est le style du plus grand nombre. Et le plus grand nombre, qui n'a pas forcément l'éducation du vin, va aller sur ces types de vins qui sont stéréotypés. Et donc, je vois mal comment, aujourd'hui, on va pouvoir se sortir de ce goût un peu commun, on va dire, qui est très caractéristique des barriques neuves. Voilà, c'est un peu mon opinion.
D'accord. Alors, un petit tour de table rapide. David Cobold.
Je suis assez d'accord avec Pierre Guigui sur beaucoup de points, et notamment le fait que ce style de goût ne va pas du tout disparaître. Mais pourquoi? C'est pas parce que ce style est nécessairement uniformisant, on peut le dire qu'il l'est, mais c'est parce qu'il plaît pour des raisons vraiment de goût, vraiment gustatives. Ça donne un goût un peu sucré, ça arrondit les angles d'un vin, ça diminue l'impact et des tanins et de l'acidité, ça fait un vin plus plaisant pour les gens qui
n'ont
pas
l'habitude de goût fort. Vous en pensez quoi, fort. Philippe?
J'en pense qu'il y a un vrai apport de Parker qui est d'utiliser des raisins mûrs, plus sains, de donner des vins plus généreux, peut-être plus séducteur spontanément, à boire plus jeune aussi, c'est tout ça l'esprit, ce qu'a pu apporter Parker à la consommation. Bien sûr aussi, ça a permis économiquement parlant de faire vendre, parce que Parker vend et vend toujours. La contrepartie, effectivement, c'est quand même un peu la standardisation, parce que le bois, on peut l'utiliser en différents coins, et quand on déguste à l'aveugle aujourd'hui des grands vins comme Parker, eh bien, devenus différents terroirs, ils ont quand même un dénominateur commun assez flagrant.
Merci Philippe Abrac, merci également à vous Pierre Guigui. Nous marquons une quatrième et dernière pause, et puis ensuite, vous pourrez jouer au Vino Quiz qui va permettre à l'un d'entre vous de gagner un exemplaire du Guide des grands amateurs de vin 2011 édité au Cherche Midi.
BFM Weekend.
Lille accueille les Oscars des Bordeaux. BFM et Planète Bordeaux invitent tous les passionnés de vin de Bordeaux à élire les 5 Bordeaux rouges de l'année. Rejoignez un jury de dégustateurs amateurs pour une découverte des AOC Bordeaux coup de cœur millésime 2008 le jeudi 21 octobre au restaurant Au Bout des Doigts à 19h, 5 rue Saint-Joseph à Lille. Participation gratuite et réservation sur bfmradio.fr dans la rubrique Invino. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Campagne financée avec le soutien de l'Union Européenne et la région Aquitaine.
Vincent Beaufils, directeur de la rédaction de Challenge.
Hu Jintao est à Paris et derrière les contrats d'Airbus et d'Areva, la puissance chinoise ne désarme pas. Sur nos marchés, TGV, BTP, Télécom, leurs entreprises font désormais partie des premiers et à des prix cassés. Les nouveaux champions chinois sont dans Challenge.
Et si cette semaine, je m'occupais de vous? D'abord, je vous épaterai avec les 50 meilleurs trucs et astuces de notre laboratoire. Enfin, je vous séduirai avec 10 ordinateurs tout en un, irrésistibles.
Attirant et tellement pratique. Microhebdo, c'est un contenu clair. Design, avec toujours plus d'actu, de tests et d'astuces pour 1,95€. Microhebdo, simplifiez-vous la vie.
Néo BFM. Alain Marty sur BFM Radio.
Retour cette fois sur Paris pour la quatrième et dernière partie d'une Vino BFM. Nous retrouvons David Cobol, le cofondateur du site Echevino, qui va nous aider à comprendre la génétique de la vigne. Vaste programme, David.
Plutôt que de vous parler pendant quelques semaines d'une seule variété de vigne, comme la semaine dernière, je vais parler de ce magnifique cépage blanc grec, la Certico.
On a reçu beaucoup de mails à ce sujet-là, d'ailleurs.
C'est bien. Et je vais poursuivre ce sujet parce que le sujet est vaste, le sujet est complexe et ça mérite un peu d'explication. Avant d'aborder le sujet ô combien contesté de modifications génétiques, je ne toucherai pas à ce sujet aujourd'hui, mais je vais essayer de vous expliquer comment peut-on reproduire la vigne. C'est intéressant que les auditeurs sachent les différentes techniques de reproduction de la vigne. Parce qu'on ne va pas parler de fantasmes, ni de menaces internationales, ni de conspirations de Dieu sait qui. Là, je vais vous parler de choses assez badies. Depuis le début de l'exploitation de la vigne par l'homme, l'homme a toujours tenté d'améliorer la plante. D'ailleurs, c'est vrai pour toute matière végétale cultivée dans un but alimentaire. On a toujours cherché à améliorer les souches de blé, les châtaignes dont a parlé Corinne Lefort la semaine dernière. Voilà. Et la vigne ne fait pas exception. Alors, quelle est la première manière? C'est d'aller dans son champ de vigne et de sélectionner les plantes qui donnaient soit les plus beaux raisins, soit le plus de raisins selon sa préoccupation, qui avaient l'air les plus sains, qui résistaient à des maladies, qui avaient un rendement régulier, de prendre ses pieds, de les reproduire par bouturage, c'est-à-dire on coupe une section de bois, on le plante dans le sol et ça pousse des racines, soit par marcottage, on courbe la tige, et on le fiche dans le sol avec deux bâtons et on attend que les racines poussent là où ça joint le sol et on sectionne de la plante mère. On a une plante fille qui est strictement identique à la plante mère. Donc cette méthode de reproduction est asexuée. On travaille sur le bois et on reproduit à l'identique la plante mère avec la plante fille. Alors cette méthode de reproduction, surtout le marcottage, a des énormes inconvénients dès lors qu'apparaît le phylloxéra. Donc pour obvier ce problème,
le phylloxéra,
c'est un petit aphide qui nous vient des Amériques, des États-Unis.
Un cadeau d'Anglo-Sam, quoi.
Oui, mais il nous a apporté aussi la solution. Mais je ne vais pas aller dans ce sens-là, mais c'est une bestiole qui mange, pour simplifier, qui mange les racines des vignes et qui tue la vigne. Donc on a trouvé la solution, c'est de greffer sur une porte-greffe naturellement résistante. Et au début, on a pris ces porte-greffes des vignes américaines qui avaient une résistance naturelle et on a greffé dessus la vigne européenne. Donc, on peut donc continuer à reproduire, non pas par marcottage, mais par bouturage, des plantes à l'identique, en prélevant des bois sains sur des belles espèces. Alors, ensuite, on est allé vers une version un peu plus rigoureuse, un peu plus longue aussi à élaborer, qui s'appelle la sélection massale, où on marque des vignes dont on a éprouvé et la résistance et la qualité de la récolte, et éventuellement le volume de la récolte, si on cherche du volume. Et là, on va le faire pendant 3 à 5 ans pour valider la perpétualité de cette belle qualité, résistance à des maladies, à de la sécheresse, à trop de pluie, à des problèmes comme ça. Et ensuite, on va sélectionner uniquement ces pieds-là. On va les tester, on va récolter les bois et on va les reproduire. Enfin, la partie ultime de cette manière de sélectionner, c'est la sélection clonale. C'est plutôt à partir d'une sélection massale, on va reproduire à l'identique une série, tout un groupe, à partir d'une plante mère déjà sélectionnée. Ça s'appelle la sélection clonale. Donc, ce que c'est qu'un clone, c'est simplement la reproduction à l'identique d'une variété, d'un seul animal, d'une seule plante, plutôt.
Alors, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas tous suivi, on peut retrouver toutes les infos sur notre site www.bfmradio.fr.
Pour les principaux cépages, donc ces procédures, pour tous les cépages en France, ce principe est agréé par un institut officiel qui s'appelle l'ENTAV, qui est affilié à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Ils testent ensuite ces clones pendant de nombreuses années in situ, avant de les agréer, et en décidant, on peut ensuite les acheter via un pépiniériste. Donc on ne peut pas planter n'importe quoi, puisque sinon on risque de propager des maladies, des nématodes, tout un tas de problèmes.
Voilà une bonne nouvelle.
Voilà,
merci.
Les différentes manières de reproduire la vigne. Je vais en parler d'autres dans les semaines à venir.
Merci David Cobold. C'est le moment du Vino Quiz de Invino BFM avec aux manettes, aux commandes, Philippe Forbrac.
Et oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin. Et le vainqueur gagne un exemplaire du guide des grands amateurs de vin 2011, édité au Cherche Midi. Un guide qui répond à la question que se posent tous les amateurs: quel est le moment optimum pour déguster les vins qui sommeillent dans ma cave? Alors, la semaine dernière, la question était, rappelez-vous, dans quelle grande région viticole est située l'AOC Côte du Vivarais ? S'agissait-il de la réponse A, dans la vallée du Rhône, B, la vallée de Napa Valley, réponse C, la vallée de Dana.
En Bretagne, ça sent la Bretagne, ça, non ?
Mais oui, pourtant la bonne réponse était la réponse A, dans la vallée du Rhône.
Étonnant.
Entre
cette
Rhône
semaine,
et Sénène.
C'était pas
l'option catalane.
Non, c'était pas dans cette partie de l'émission. Alors
on
cette semaine,
de parents, David.
Une nouvelle question. Quel est le nom du célèbre critique vin américain ? D'un des célèbres. Réponse A, Robert Parker. Réponse B, Parker Lewis. Ou réponse C, Tony Parker.
Et Charlie Parker.
Et ça sera pas la prochaine fois. Alors pour répondre et gagner un exemplaire du guide des grands amateurs de vin 2011, rendez-vous dès maintenant sur notre site www.bfmradio.fr dans la rubrique service et je concours. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci Philippe Aubrac, David Cobold. On arrive sur l'actualité du vin. Elle est parisienne au début avec une soirée truffe et grand cru qu'il ne faut absolument pas louper.
Il faut surtout pas la louper. Et au fait, c'est la petite banlieue de Paris, hein, parce que c'est pas Paris, c'est à Neuilly, ce restaurant. La truffe noire, une étoile ou un macaron au guide Michelin. Un dîner truffe et grand cru, ça va être la saison des truffes, ça va être très très beau. Mardi 30 novembre, et vous allez pouvoir comparer, déguster. C'est un grand spécialiste de truffes. Évidemment, le restaurant s'appelle la truffe noire. Magnifique champagne, égérie de panier, qui est la cave coopérative du côté de Château-Thierry,
très proche
de Paris. Très belle maison. Carbonieux, Pessac-Lignon en 2006, Cheval Blanc en 97, Saint-Émilion à maturité, assez souple, ça va être très très joli je pense sur la truffe. Claude Lacomarine en Pommard Première Crue, intéressant aussi, au Marbusé, très beau vin de Saint-Estèphe. Et on finit sur un IKEM 99, c'est pas mal comme programme à la Martinique.
Et comment ça coûte?
Vous y
ça
allez, vous?
Avec plaisir, là, on va s'y retrouver. Tiens,
vas-y, il va vous en coûter 247 €.
C'est donné.
247, je vous fais une remise de 2 €.
Il y a un numéro de téléphone, David, parce que c'est limité les inscriptions.
Oui, très limité, 8 personnes seulement, 01 42 89. 14 deux fois.
Alors, on passe à l'actualité en province et à Bordeaux.
Eh bien, savez-vous que le Wine Business Club continue son expansion? Et là, on a la belle ville, la capitale de l'Aquitaine, Bordeaux, au bord de l'eau, où resteront le Chapeau Fin, le mardi 23 novembre, avec un programme traditionnel d'économie, gastronomie et de grands crus. Et là, vous pouvez suivre l'ensemble des programmes du Wine Business Club. Paris, Reims, Toulouse, Marseille, Montauban, Lyon, Genève, Monte-Carlo et maintenant Bordeaux sur www.winebusinessclub.com.
Une vidéo BFM, c'est à la radio, c'est en ce moment d'ailleurs. Et David Cobold, c'est aussi chaque week-end, samedi et dimanche, à la télé sur BFM TV.
Aussi sur la télé, vous pouvez ne pas boire, mais regarder. Vous pouvez peut-être lécher votre écran. Hein, si
chacun
vous voyez
fait ce qu'il veut avec la télé, David.
Oui, avec son écran surtout. Alors là, vous allez apprendre des choses sur l'appellation Côte de Languedoc, Pic Saint-Loup. Donc je rappelle que c'est une sous ensemble, de grands ensembles, Côte de Languedoc.
Très bon vin, d'ailleurs.
Pic Saint-Loup, magnifique endroit avec de grandes montagnes.
Avec 18 en cousine, David, de paradis.
Oui, c'est superbe. Alors, www.bfmtv.fr oui. Pour avoir les horaires.
Les horaires des 8 diffusions, le week-end. David, on arrive sur un excellent ouvrage, La Côte des Grands Vins de France 2011.
Alors, je recommande cela pour tout le monde qui achète du vin d'occasion, c'est-à-dire des vins de collection, gros, ou des vins dans les ventes aux enchères. Je tiens à signaler, d'ailleurs, que la vente aux enchères de Goemio, récemment, et c'est la seule vente aux enchères faite par un guide. Qu'est-ce qu'on fait dans les guides? On récolte beaucoup d'échantillons, on goûte beaucoup de vins, mais souvent il y a des doubles parce qu'il y a des problèmes de bouchons, etc. Donc il y a des doubles. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, Goemio a la très bonne idée de les vendre aux enchères pour une œuvre caritative pour les enfants handicapés. Et ils ont récolté 41 000 euros cette année. C'est un record et c'est très bien. Et bravo à tout le monde qui est allé. Ça s'est passé chez Arcurial il n'y a pas très longtemps.
Et incitons d'ailleurs les autres guides à faire de même parce que c'est une excellente initiative.
Je trouve que c'est une très bonne initiative.
Alors qu'est-ce qui se passe à la Côte des Grands Vins de France?
La Côte des Grands Vins de France, je vous rappelle que c'est écrit par notre excellent confrère Alain Bradfer.
Qui fut chroniqueur de Invino BFM au début de l'émission.
Il y a 6-7 ans peut-être. Et on le salue. Et cette année, il s'est associé avec un très grand monsieur du vin, qui est caviste, stockeur de vin, Yves Legrand, le chemin des vignerons dans son état, ici les Moulineaux. Et ils sont associés pour suivre l'ensemble des ventes, des vins qui se vendent dans les ventes aux enchères en France et ailleurs. Et si vous voulez savoir combien valent vos bouteilles de Cheval Blanc 47, ou bien à quel prix vous pouvez vous acheter un magnifique vin catalan si jamais il est coté sur cet ouvrage, il faut l'acheter. C'est le Côte des Grands Vins de France 2011. Ils prennent l'ensemble des ventes, ils les passent dans les moulinettes, ils vous donnent les cotations moyennes par millésime et par vin.
Ah bah c'est
donc c'est listé par propriété qui sont ensuite reclassées par appellation.
En fait, quand on veut évaluer le prix de sa cave potentielle, c'est l'ouvrage de référence.
C'est une très bonne indication. Et ça devait être sportif pour le faire en 2010. Je rappelle que l'édition 2011 vient de sortir, puisque les prix ont été extrêmement fluctuants. Il y avait des hauts et des bas, avec des très très grands écarts dans les fourchettes. Et je pense qu'ils ont dû beaucoup travailler pour vérifier tout ça.
Alors on termine par l'Australie. Il paraît que le prix du mètre carré chez les kangourous augmente, David.
Alors, vous connaissez le problème. En France, on le rencontre à Bordeaux, par exemple, dans l'agglomération bordelaise, où on va s'accaparer des terrains viticoles pour bâtir des maisons, pour bâtir des hôpitaux, pour bâtir des routes, pour passer des TGV. Il y a un cas en cours actuellement avec la ligne TGV Bordeaux-Toulouse qui va sectionner le vignoble de Graves, du côte de Marmondet, de Buzet, de Frontenay.
Écoutez, la vie a besoin de stress hydrique, donc un bon TGV qui passe au milieu, ça la stimule, non?
Oui, on peut dire, voir ça comme ça, mais si vous êtes à la Marty, si vous êtes vigneron et vous avez vos 15 hectares et c'est juste viable et vous avez...
Ça fait moins rigoler, je
voilà,
suis d'accord.
Voilà, et ça coupe au milieu, c'est pas top. Hein. Donc là, il y a ces problèmes-là. Il y a aussi le développement urbain et pavillonnaire. Moi, je vois régulièrement le cas quand je descends dans le sud, à Bandol, par exemple. Le vignoble commence à être sérieusement mité par l'accroissement des zones pavillonnaires.
Et en Australie, alors, qu'est-ce qui se passe?
Et évidemment, c'est le problème et la pression foncière. Ça, pour un jeune viticulteur qui reprend les vignes de son père, ils vont à des constructions. Et la même chose, comment ça se passe en Australie, ou à McLaren Vale, qui est une région juste près d'Adelaide, qui donne sur le Sion, extrêmement intéressant sur le plan géologique. Il y a un grand projet de s'accaparer de 150 hectares pour faire un développement. Et les Australiens se battent contre ce projet. On leur souhaite beaucoup de courage et il faut gagner.
Merci David Cobold. Ce numéro de Vidéo BFM est maintenant terminé. Je vous rappelle que vous pouvez participer aux enregistrements de l'émission qui se déroule à Paris, chez Fauchon, le mercredi entre 16h et 19h. Pour tout renseignement, une seule adresse, www.bfmradio.fr. On se retrouve, comme d'hab, samedi à 10h et dimanche à 16h. D'ici là, portez-vous bien à l'écoute de BFM et surtout, respectez la plus grande des modérations. Chaque week-end, les...